Le délirium sur Millennium.
Et dans le délirium, c'est le moment de retrouver notre invité du jour à l'occasion du festival Marque-Plage qui a lieu tout le week-end. C'est Anne Kéméré qui sera l'invité d'honneur. Bonjour Madame Kéméré.
Bonjour.
Alors on va parler de ce festival, mais aussi de vos romans et puis aussi de vos exploits puisque vous avez traversé les océans. Alors déjà, pourquoi avoir accepté de participer au festival Marque-Plage ?
Alors, déjà l'invitation avait eu lieu l'année dernière et puis pour cause d'élection avait dû être reportée, donc je m'étais engagée à revenir cette année. Et pourquoi ? Bah, tout simplement parce que je trouve que c'est bien sympa d'avoir des festivals en Bretagne, c'est un peu ma terre quand même.
Ouais.
Et même si je vais m'aventurer dans le Nord, puisque moi je suis du Finistère Sud, c'est vrai que c'est toujours un moment sympa. Là, il y a 80, je crois qu'il y a 80 auteurs ou quelque chose comme ça. Des gens que je connais aussi, puisque que ce soit Gonéa Bolivier ou Hervé Hamon qui seront présents, ce sont des gens que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, avec qui on a pas mal échangé. Donc c'est un peu aussi pour nous le moyen de nous retrouver quand on est voyageur et qu'on n'a pas toujours l'occasion de croiser la route des uns et des autres. Donc voilà, c'est tout ça. Et puis la curiosité, parce que c'est un coin que je ne connais pas bien.
D'accord.
Et j'ai bien l'intention de découvrir.
Vous allez voir, c'est très joli. Vous avez traversé les océans dans des embarcations parfois très atypiques. Quand avez-vous compris que ces aventures devaient aussi devenir des livres ?
Alors, ça a été une longue aventure, celle de l'aventure de l'écriture. J'ai toujours aimé lire. C'est vrai que j'ai toujours embarqué énormément de livres dans mes traversées à l'époque où il n'y avait pas encore la liseuse. C'était un certain poids, donc il y avait une réflexion sur ce que j'emmenais. Et j'ai toujours pris des notes, écrit, rédigé des petits trucs, des journaux quand je partais en vacances. Et c'est vrai que en discutant avec les uns et les autres, je me suis rendu compte que c'était très compliqué de partager une expérience en parole.
Ouais.
Et que finalement, en mots, on pouvait peut-être se rapprocher le plus possible de ce qu'avait été ce genre d'aventure. Et puis, il y avait vraiment une envie de partager, parce que j'ai compris qu'il y avait une curiosité de la part de certains et de certaines. Et ça a été vraiment... Alors au départ, le tout premier livre, c'était plus en... pour ma fille qui était très petite quand je suis partie, elle avait 3 ans.
D'accord.
Et je me suis dit, peut-être un jour elle voudra savoir, elle voudra. Et donc si j'écris maintenant, ce sera aussi pour elle une sorte de témoignage. Et de là, c'est devenu vraiment un témoignage qui est paru sous forme d'un premier ouvrage. Et ça m'a c'est vrai que ça m'a donné envie. Alors pas à chaque aventure, mais quand il y avait vraiment quelque chose que j'avais envie de partager, quelque chose de particulier, mes voyages en Arctique par exemple, parce que c'est un milieu qui est assez méconnu parfois du grand public, malgré tout ce qu'on peut avoir comme information, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de nuances à mettre dans ce qu'on voyait là-haut, dans les rencontres qu'on pouvait y faire, et puis dans un univers qui est complètement fascinant et qu'on a l'impression de voir sur une autre planète et qui finalement n'est pas si loin de nous. Et il y a un parallèle en plus entre les Bretons et les Inuits qui m'a paru tellement évident dans cette proximité avec la nature, dans cette proximité avec la mer, que j'ai eu envie d'écrire cette similitude, ou en tout cas ces découvertes qui finalement parfois n'en étaient pas, parce que j'avais l'impression d'être chez moi.
Est-ce qu'il vous arrive d'écrire en mer ou juste quand vous êtes chez vous ?
Non, j'ai écrit, j'ai pris beaucoup de notes. En fait, je me suis beaucoup inspirée des notes que je prenais en direct sur le terrain, parce que je crois qu'il y a ça aussi qui est important, c'est l'émotion qu'on a au moment où on découvre quelque chose, ou quand on se confronte à l'Arctique ou aux communautés de l'Arctique. Je me suis dit que si j'attendais le retour, je risquais d'édulcorer un peu le discours, alors que finalement, quand on écrit sur le vif, après on remet évidemment tout ça en forme, mais sur le vif, on va avoir des choses qui vont nous échapper par la suite.
Ouais.
Et donc c'est important, je pense.
On dit souvent que l'écriture, finalement, c'est un voyage intérieur. Vous ressentez ça aussi en tant que navigatrice ?
Ah, complètement, ouais. Et puis c'est aussi on revit exactement ce qu'on a vécu, on refait le voyage une deuxième fois, et on le fait de façon très très personnelle. Alors c'est ça la complexité, c'est jusqu'où je me livre, et est-ce que je garde certaines choses pour moi. Il y a une certaine pudeur qu'on peut avoir parfois, et ça c'est toute la complexité de partager peut-être une petite retenue, mais sans trop de retenue non plus, puisqu'on veut essayer d'informer au maximum.
Ouais, et vos livres sont pas seulement des récits d'aventure, hein, c'est aussi des méditations sur le silence, l'environnement. C'est une démarche volontaire ?
Je crois que c'est aussi une leçon de vie que la nature m'a certainement enseignée. On part pour un challenge, on part pour un défi. Alors, ce sont toujours des grands mots, des premières, des victoires, des conquêtes. Et puis finalement, on se rend compte au final qu'il n'y a pas de conquête, il n'y a pas de victoire. C'est vraiment un cheminement et c'est la nature qui, au fur et à mesure du voyage, nous forge. Et c'est peut-être ça qui m'a donné envie aussi de raconter quel est ce voyage introspectif et quelle est cette grosse claque qu'on prend la première fois qu'on se retrouve seul au milieu d'un océan. Et qu'on, d'un seul coup, on n'a plus le regard des autres, on n'a plus la parole des autres, et on ne peut que s'adapter au mieux et essayer vraiment de glisser sur la peau de l'océan. Mmh. Et je crois que c'est ça que j'ai eu envie de raconter.
On l'a dit, hein, vous êtes très attaché à la Bretagne. Qu'est-ce que cette région vous inspire, à la fois dans votre vie de navigatrice, mais aussi dans votre écriture ?
Beaucoup de choses. Moi, c'est toujours très difficile d'expliquer un attachement à une région, mais je pense que chaque Bretonne, chaque Breton qui sent la Bretagne lui couler dans les veines, sait que c'est une histoire d'amour et c'est quelque chose qui ne. On peut être fâché par moments. Moi, je suis partie pendant une dizaine d'années quand j'avais 20 ans parce que je voulais voir ailleurs. Et puis je me suis rendu compte que finalement, l'endroit où j'étais le mieux, c'était quand même en Bretagne. Donc peut-être que ça nous apprend l'ancrage. Partir pour mieux revenir, c'est certainement une des raisons pour lesquelles je suis revenue en Bretagne. Il y a comme un élastique qui nous ramène toujours à cette terre. Et puis, là, je suis dans le Cap-Sizun. Je crois que l'endroit est quand même suffisamment âpre pour que la nature soit omniprésente en permanence. Donc, c'est vrai que j'ai choisi aussi cette Bretagne qui est plongée dans un environnement âpre, mais tellement fascinant, puis qui est... moi, j'ai les pieds dans l'eau. Donc, l'océan, il est là tout le temps. Et c'est peut-être cet ancrage-là qui est important.
Le festival Marque-Plage fait la part belle à la littérature liée à la mer, au territoire, au voyage. Mais selon vous, est-ce que la mer est un thème littéraire sous-exploité ou au contraire, c'est plutôt universel ?
Oh, je pense que c'est universel. Je crois que si on cherche un petit peu et qu'on veut vraiment lire la mer... on va trouver tous les profils d'écrivains, on va trouver toutes les images possibles, que ce soit les photographes, que ce soit les musiciens, que ce soit donc dans la culture. Je pense que la mer est très présente depuis très longtemps d'ailleurs, mais on peut continuer à l'écrire parce que je pense que le regard que l'on porte sur la mer est très personnel et chacun peut à sa façon la raconter, sa relation, ses peurs peut-être aussi, et puis ses fascinations. Donc ça reste un univers qui est à découvrir, parce que je crois qu'aujourd'hui, les abysses, même si quelques-uns ont été un peu explorés, on a quand même encore beaucoup d'inconnus dans cet océan. Et c'est ça qui fascine d'ailleurs. Je crois que c'est ça qui fait un peu rêver les gens, et c'est ça aussi qui leur fait peur. Je vois dans les questions qu'on peut me poser, se retrouver seul au milieu de l'océan, pour beaucoup, c'est énormément de crainte. Alors que finalement, on se rend compte qu'il y a un plaisir qui... C'est pour ça qu'on y retourne d'ailleurs. Il y a un plaisir qui est indicible, qui est peut-être cette espèce de façon de se fondre complètement et pendant un moment de se déshumaniser pour redevenir peut-être, alors je ne sais pas, animal, j'en sais rien, mais quelque chose d'autre, en tout cas quelqu'un d'autre. Et ça, l'océan, c'est une super leçon de vie pour ça.
Alors, il y a beaucoup de monde pendant ce festival Marque-Plage, vous verrez hein, d'ailleurs. Et il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent au festival. Quel message vous aimeriez transmettre à ceux qui rêvent d'aventure ou d'écriture ?
Bah de toute façon, moi, le mot-clé, c'est oser. Si on veut, quelle que soit l'aventure qu'on ait envie de vivre, quand on sait au fond de soi, c'est vraiment aussi apprendre à se connaître. Mais quand on sait qu'on peut le faire, ou en tout cas qu'on a la volonté et qu'on ira jusqu'au bout pour y arriver, faut y aller. Il n'y a pas de barrière. Les barrières, c'est simplement celles que les autres souvent nous mettent en nous disant qu'on n'est pas capable ou en nous regardant avec une espèce de regard ou dédaigneux ou une espèce de condescendance. Mais je crois que quand on sait ce qu'on veut, faut y aller. Donc il y a pas de limite, il y a pas de frein, il y a pas de limite et il y a surtout pas de barrière. Et ça, c'est ça aussi peut-être que la mer nous apprend, c'est que quand on regarde l'horizon, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose derrière et il y a pas de limite. Seule la côte est la limite peut-être et c'est pour ça qu'on s'en va et qu'on prend la mer et on regarde le large.
Vous rencontrez souvent vos lecteurs, je suppose. Quelle est la réaction qui vous touche le plus quand on vous parle de vos livres ?
Alors, je fais pas beaucoup de festivals. C'est vraiment. Enfin, il y a pas quelque chose en particulier qui me touche. Je suis toujours assez surprise hein, quand effectivement les gens me disent que, bah, je sais pas, ils se sont plongés dans un récit. Alors si peut-être récemment une personne me disait qu'elle avait confié mon livre à son petit-fils, qu'il l'a dévoré. D'accord. Et je me dis, bah voilà, on n'arrête pas de dire que les jeunes ne lisent plus. Je crois qu'il faut pas non plus généraliser. Ça dépend. Il y a pas de bonne ou de mauvaise lecture. Je crois qu'à partir du moment où on a envie de découvrir quelque chose et de le faire découvrir, parce que ça aussi, il y a la démarche du partage de l'écrivain, mais je crois qu'il y a la démarche du partage de quelqu'un qui a aimé un livre et qui a vraiment envie de le partager avec quelqu'un d'autre, et souvent ce sont les proches dans la famille. Et ça, c'est touchant, oui, parce qu'il y a une transmission. Et je pense que c'est très important, la transmission.
Alors aujourd'hui, on parle beaucoup hein, d'écologie, d'urgence climatique. Alors vous qui avez traversé les zones sensibles, et notamment l'Arctique, est-ce que vous sentez un devoir de témoignage dans vos livres ?
Peut-être que mes livres étaient un tout début, parce que j'ai initié depuis une série qui s'appelle Face au climat, qui est diffusée sur Ushuaïa, et qui, vraiment, cette série, elle est dans la continuité de mes aventures, à savoir que j'ai rencontré des Inuits qui m'ont raconté ce qui se passait chez eux, et j'ai eu envie de le mettre en image, parce que je me dis que l'image, c'est aussi une belle façon de parler et de montrer. Et à travers cette série, c'était pas non plus de, il y a pas de sinistro, c'est plutôt de montrer les initiatives de petites communautés parfois, beaucoup de pêcheurs, d'agriculteurs, des gens de la terre ou de la mer, et qui essayent de trouver des idées pour s'adapter. Donc aujourd'hui, on peut pas le nier. On en est à la troisième saison, on a tourné 9 épisodes, on était en Amérique du Sud cette année, et on revient avec beaucoup de leçons de vie, mais aussi beaucoup d'espoir, parce que toutes ces petites initiatives nous montrent que si on accepte le changement, parce qu'il ne faut pas en avoir peur. Si on accepte le changement, on peut peut-être réussir à s'adapter. Et mais aujourd'hui, oui, à travers le monde entier, on le voit. On n'a pas besoin d'aller très loin. Hein. Il suffit d'être chez nous et de regarder avec l'élévation, par exemple, du niveau de la mer. Moi, j'ai l'île de Sein en face de chez moi. C'est un sujet qui m'inquiète parce que cette élévation du niveau de la mer, elle est irrévocable. Aujourd'hui, elle existe. Donc, que vont faire ces Iliens lorsque le niveau va être tellement élevé qu'ils ne pourront plus habiter leur île, mais leurs îles, parce que ce qui se passe à Sein se passe partout dans le monde.
Ouais. Après tout ce que vous avez vécu, est-ce que la peur est encore présente et comment vous la traduisez aussi dans vos récits ?
Alors je pense que la peur, elle est salvatrice, parce que j'ai l'impression que la peur, c'est celle qui nous permet de nous sauver la peau. Tant que la peur reste une peur qu'on peut gérer et que ça ne devient pas non plus une angoisse ou quelque chose qui va nous faire réagir de façon irraisonnée et souvent déraisonnable. Donc oui, la peur, elle est là. La peur, c'est la conscience que justement là, il y a peut-être un risque qui va être trop important ou qui pourrait mettre en péril notre vie et qui nous permet peut-être à ce moment-là de rentrer dans la cabine, de fermer le haillon et de se dire bah maintenant je suis dans ma bulle, je vais attendre que ça se passe. J'ai tout arrimé, le bateau est en sécurité, je suis en sécurité. Donc c'est cette peur-là que j'ai pu avoir dans des moments de météo très compliqués et qui m'a permis certainement de revenir à terre. Donc il ne faut pas avoir peur de ces peurs, hein, tant que ces peurs restent raisonnables, je veux dire.
Vous utilisez des énergies alternatives hein, pour vos traversées. Est-ce que l'innovation fait partie de votre manière aussi de voyager et d'écrire ?
Ah oui, certainement, ouais. C'est vrai que après mes 2 traversées de l'Atlantique à l'Aviron, je savais que je ne pourrais pas vraiment progresser dans ma méthode d'aviron ou dans la façon de dessiner le bateau. Et c'est là que l'architecte qui avait dessiné le bateau a décidé de poser une aile sur un bateau qui restait petit, donc une aile de kite. Et c'est vrai que c'était une première parce que personne ne l'avait encore envisagé. Et alors c'était pas l'idée de la première qui était intéressante, c'était vraiment l'idée d'aller farfouiller, trouver, chercher des idées qui allaient nous permettre de mettre à bien ce projet. Ouais. Et ensuite en Arctique avec ce bateau solaire, ça a été vraiment cette continuité de vraiment d'essayer quelque chose sans pouvoir s'appuyer sur ce qui a été fait précédemment, ou en tout cas en s'appuyant sur certaines expériences, mais qui n'étaient pas tout à fait similaires. Et ça, c'est vrai que c'est assez excitant, parce que là, pour le coup, c'est un travail d'équipe. Il faut vraiment avoir s'entourer de spécialistes, parce que ce n'est pas moi qui... j'ai pas créé les panneaux solaires, je les ai même pas dessinés. On les a pensés, et il a fallu les construire, les concevoir et les construire. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez fascinant, d'avancer, parce que d'un seul coup, même si on n'est pas en train d'imaginer qu'on va révolutionner le monde, il y a un petit plus qu'on apporte, et c'est vraiment cette petite brique supplémentaire qui permet peut-être de finaliser un mur, en tout cas le mur de notre vie, ouais, ce qu'on construit au jour le jour.
Encore deux questions, est-ce que vous avez un nouveau départ de prévu, un nouveau projet d'écriture ?
Alors des projets de... oui, j'ai un projet d'écriture qui est sur mon ordinateur, c'est vrai, depuis un moment, et je suis un peu... alors je suis pas feignante, mais c'est vrai que les tournages depuis qu'on a initié cette série, ça m'a pris énormément de temps. C'est long, les distances parfois sont lointaines aussi. Donc ça a mis un petit peu en sommeil pas mal d'autres projets que j'avais, mais évidemment que je vais essayer de continuer sur ma lancée, de finir déjà cette écriture qui sera plutôt du domaine, alors une sorte de fiction en tout cas, un peu dans la dimension peut-être de l'homme qui parlait juste, m'inspirer de faits réels et de personnes réelles, mais d'en raconter une histoire en tout cas. Donc oui, ça c'est un projet que j'aimerais réaliser ou en tout cas finaliser pour 2026.
Et dernière chose, si vous deviez conseiller un seul de vos livres à un nouveau lecteur qui va venir là au Marque-Plage à Trégastel, ça serait lequel et pourquoi ?
Ah là là, mais je peux pas conseiller. Moi, je les prends tous. Hein. Je les prends tous parce qu'en fait, ils sont tous les trois différents. Ouais. Vous avez le récit du père Lemeur qui est enterré à Tuktoyaktuk et qui a été vraiment pour moi un personnage clé dans mes aventures. Donc ça, c'est un des livres. Attraper les nuages, je raconte vraiment tout ce que les Inuits ont pu me confier et qui a été vraiment, pour moi, ça a été une période extrêmement riche d'enseignements. Et puis, Passagère de l'Arctique, je raconte ce périple en kayak en Arctique à travers le passage du Nord-Ouest avec entre autres Raphaël Donjon. Donc j'avais un équipier, c'est le premier voyage et un des rares où j'étais pas seule et avec un regard féminin et un regard masculin et que j'ai trouvé aussi extrêmement riche. Donc ils ont rien à voir les uns les autres. Donc non, faut prendre les trois. Voilà, faut prendre les trois.
Eh ben merci beaucoup Madame Kéméré, on vous souhaite un très beau festival Marque-Plage à Trégastel.
Merci beaucoup, merci Kenao.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir.